Chapitre 5. Projet de voyage. Cassandre est assez fière de son exploit. Pour une fois, elle a réussi à convaincre sa famille. Paris est bien l'enfant abandonné qui a grandi loin de Troie. Le berger qui l'a élevé lui a en effet raconté comment il l'a trouvé un jour dans une anfractuosité de rocher, n'ayant survécu que grâce au lait d'une ourse compatissante. Tout attendri, le berger l'a recueilli et en a fait ce qu'il est aujourd'hui, un grand et beau jeune homme, devenu berger à son tour. Le roi et la reine sont bouleversés. « Quand je songe que Déiphobe aurait pu tuer son propre frère, » soupire Écube. « Mais il ne l'a pas fait, » répond Priam. « Ce qui prouve que les dieux sont avec nous. Je veux qu'il soit l'hôte d'honneur du banquet de ce soir. Nous avons tant à nous faire pardonner. » Passés les premiers instants de surprise, fils et filles du roi sont tout heureux de voir leurs nombreuses familles s'agrandir encore. Les manières de Paris manquent peut-être de raffinement, mais son charme opère sur chacun, et la vie rude qu'il a menée dans la montagne lui a appris une foule de choses qu'aucun précepteur n'enseigne. Cassandre se réjouit d'avoir fait renaître le sourire sur le visage de sa mère, mais habituée à déchiffrer l'avenir, elle ne perd pas pour autant de vue le passé. « Avez-vous tout oublié, mère ? » demande-t-elle à la reine au plus fort de la fête. « Oubliez quoi ? Votre songe, cette torche enflammée qui embrasait Troie. » Écube lui jette un regard suspicieux. « Comment es-tu au courant de ce rêve ? Jamais je ne t'en ai parlé. » « Mon don me permet de percer certains secrets, » répond Cassandre, qui ne tient pas à avouer qu'elle écoute parfois aux portes. « Peu importe ce que j'ai rêvé autrefois, » réplique Écube, « c'était évidemment une erreur. Le retour de Paris, c'est un signe des dieux pour nous montrer que nous avons du tort d'abandonner cet enfant. » « Ne serait-ce pas plutôt une provocation de leur part ? Une façon de vous remettre sur le chemin que vous avez tenté d'éviter ? Pourquoi ne considérer toujours que le côté sombre des choses ? Ne peux-tu pas être heureuse pour une fois ?» Écube a parlé sèchement, et Cassandre renonce à discuter. Entourée de ses frères et sœurs, elle s'efforce de rire comme n'importe quelle jeune fille. Elle se régale du gibier, des sauces parfumées, parie avec ses frères que le nombre de grains de raisin qu'elle peut avaler le temps d'une chanson, lance une olive à la tête de Polyxène, qui l'accuse d'être ivre. Et durant les semaines qui suivent, elle arrive presque à se persuader que sa mère a dit vrai. Elle n'est qu'une pessimiste qui gâche la vie de ceux qu'elle aime en leur annonçant sans cesse des catastrophes. Car Paris a repris l'existence qui a toujours été la sienne, gardant les troupeaux dans la montagne et jouissant de la vie, sans se soucier du lendemain. En quoi l'existence de ce frère adorable pourrait-elle mettre Troie en danger ? Quelques mois plus tard, pourtant, lors d'un dîner de fête, Paris se lève soudain et réclame le silence. « Jamais je ne répéterai assez à quel point je suis heureux d'avoir retrouvé mes véritables parents. Le jour où j'ai remporté le premier prix lors des fêtes royales restera pour moi inoubliable. » Venu à Troie pour récupérer un taureau, j'ai trouvé une famille. C'est pourquoi, encore une fois, je veux lever ma coupe en l'honneur du roi et de la reine. Répondant à son geste, le roi se lève et à son tour prend la parole d'une voix où perce l'émotion. « Le bonheur que tu nous apportes chaque jour, mon cher fils, ne saurait nous faire oublier toutes ces années durant lesquelles nous avons été séparés. Nous avons une dette envers toi, Paris. Demande-nous ce que tu veux et tu l'obtiendras. » Paris n'hésite qu'un instant. « J'ai une requête, une seule. » Je désire être envoyé comme ambassadeur auprès du roi Ménélas. » En entendant ce nom, Cassandre se met à trembler, terrifiée par la vision qui vient de s'imposer à elle. La salle où se tient le dîner a disparu, remplacée par une mer en feu qui bat les rochers et menace d'engloutir le palais tout entier. Loin, très loin, par-delà cette mer, elle entend la voix de son père qui demande « Pourquoi veux-tu rencontrer ce grec ? Tu sais pourtant qu'il est notre ennemi. Depuis la nuit des temps, les Grecs font passer leurs marchandises à travers notre pays. » Et ils ont toujours refusé de payer le droit que nous exigeons. Pas plus que moi, tu n'obtiendras quoi que ce soit de Ménélas. » Paris éclate d'un rire joyeux. « Ce n'est pas de l'argent que j'attends de lui. Je veux juste récupérer ce qui m'est dû. »« Ce qui t'est dû ?» Cassandre ferme les yeux pour échapper à sa vision, les rouvre, tout est redevenu normal autour d'elle. Ses sœurs se chuchotent des confidences, ses frères se versent à boire, les domestiques s'affairent en silence. Et la belle voix grave de Paris résonne dans la grande salle. Un jour qu'Athéna, Aphrodite et Héra se disputaient une pomme d'or, Zeus décida qu'elle irait à la plus belle des trois. Mais il ne voulait pas avoir à subir le courroux des perdantes. Aussi me choisit-il pour les départager. Écoutez parler un homme qui a rendu service à Zeus, cela n'arrive pas tous les jours. Personne n'est vraiment étonné, cependant, car les dieux apparaissent fréquemment dans les songes, et on dit qu'ils peuvent aller et venir à leur gré, de leur univers à celui des humains. Qu'un dieu ait fait appel au séduisant Paris pour juger de la beauté de trois déesses n'est donc pas totalement invraisemblable. Inutile de préciser que chacune des trois déesses était très désireuse de s'attirer ma faveur, dit en riant le jeune homme. Hera, en tant qu'épouse de Zeus, me promit que je dominerais la terre entière si je la désignais comme la plus belle. Athéna, déesse de la guerre, m'affirma qu'elle me donnerait la victoire dans tous les combats. Notre déesse de l'amour, quant à elle, était prête à m'offrir la plus belle femme du monde. Paris se tourne vers ses frères. À en juger par votre rage, ce fameux jour où m'avez vu remporter le trophée, je suppose que vous auriez choisi Athéna. Les fils de Priam rient de bon cœur. Ou peut-être Hera. En ce qui me concerne, je préfère l'amour à la guerre, et sans hésiter, j'ai désigné Aphrodite. Or, il se trouve que la plus belle femme du monde est Hélène de Sparte, la femme du roi Ménélas. Aphrodite me l'offre, à condition, bien sûr, que j'aille la chercher. Tu n'iras pas ! Tous les convives sursautent, se tournent vers Cassandre qui est debout, un bras levé, ses yeux étincelants comme les braises d'un foyer. Même Paris reste un instant sidéré, mais il n'est pas du genre à s'en laisser imposer par une jeune fille. Notre grande prêtresse me conseillerait-elle de désobéir à Aphrodite ? Demande-t-il avec un petit rire insolent. Ne te moque pas, Paris. Si tu refuses de croire à mes prédictions, écoute au moins la voix de la raison et ce que dit notre père. Les Grecs ne veulent pas seulement nous appauvrir, ils attendent l'occasion de nous écraser. Le moindre prétexte déclenchera leur colère. Et si tu enlèves la femme d'un de leurs chefs... Je ne l'enlèverai pas, coupe Paris, très sûr de lui. Elle m'aimera et me suivra de son plein gré. Aphrodite me l'a promis. En désespoir de cause, Cassandre se tourne vers son père, et ce qu'elle lit dans ses yeux la remplit d'effroi. Accéder à la demande de Paris est la seule façon pour lui de se faire pardonner son abandon. Alors la jeune fille s'adresse à ses frères et sœurs. « Je vous supplie de me croire, le projet de Paris déclenchera des catastrophes. Voulez-vous donc perdre un frère si peu de temps après l'avoir retrouvé? Pouvons-nous prendre le risque de l'envoyer à la mort une deuxième fois ?»« Une deuxième fois ?» répète Hector. « La première fois, elle n'est pas morte que je sache. » Et ce n'était pas nous, mais nos parents qui l'avaient éloigné de la cour. Ce soir encore, la décision leur appartient, à eux seuls. Hector a bien parlé, déclare le roi Priam en se levant à son tour. Que pourrait-il advenir de mauvais, puisque c'est Aphrodite elle-même qui envoie Paris à Sparte? Cassandre a toutes les peines du monde à ne pas se montrer insolente. Comment pouvez-vous être à ce point naïf, père? Ne savez-vous pas que les dieux s'amusent parfois à pousser les mortels vers des chemins qui mènent à la catastrophe? Il faut à tout prix empêcher Paris de partir. Je vois la mer couverte de sang et notre ville couverte de cendres. Quel horrible spectacle! En partie parce que les images qui surgissent de nouveau devant elle sont réellement effrayantes, en partie pour tenter de convaincre son père, Cassandre suffoque. Elle ferme les yeux et se laisse tomber à terre en poussant un grand cri. Hécube accourt, se penche vers sa fille. « Il lui faut un médecin de toute urgence, déclare-t-elle d'une voix blanche. Garde, ramenez-la au temple. » Les gardes entourent Cassandre, l'attrape sous les bras et la traîne hors de la salle sans tenir compte de ses supplications. C'est insensé. Elle est la seule femme de Troie à être lucide, on la croit malade. Peut-être en a-t-elle trop fait. Peut-être aurait-elle dû attendre la fin du banquet et parler à son père calmement en aparté. Mais cela n'aurait sans doute servi à rien. Cassandre sait que le destin en marche brise tout sur son passage. Et que, maudite par Apollon, elle sera impuissante à l'arrêter.